Salut et bienvenue dans Pour faire bref, le nouveau format du podcast MOM. C'est parti.
Elle devient quoi alors? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants?
Eh bien, j'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez, on les a maintenant, hein.
Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et deux enfants.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas?
On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien.
Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler?
Ça, je sais pas.
Pourquoi avez-vous poussé un soupir?
Je m'appelle Laura, et à fréquence aléatoire, tu pourras écouter une personne répondre à la question « Et toi ? T'en as ? T'en veux ? T'en voulais des mômes ?»
Alors, j'en ai une. Elle a 9 mois. Et moi, je voulais des enfants quand j'avais 20 et quelques. Mais alors, surtout pas tout de suite. J'avais vraiment 1000 autres envies avant d'avoir des enfants. Et je voyais certaines de mes copines qui, dès l'âge de 18 ans, crevaient d'envie d'être enceintes, et moi, pas du tout. Et en fait, l'envie, elle est venue au contact d'autres enfants. Quand j'ai rencontré un homme avec lequel j'ai été en couple, qui avait 3 enfants. Et au début, je me suis demandé ce que j'allais faire de lui. Et puis finalement, quand j'ai rencontré ses enfants, j'ai tellement adoré ça, que alors là, c'est devenu une idée fixe. C'est comme si on avait appuyé sur un bouton et que l'envie est venue d'un seul coup. Très forte. Avant d'être avec cet homme, j'étais en couple avec un autre homme, quelques années plus tôt, qui n'avait pas d'enfant, et qui mourait d'envie d'avoir un enfant avec moi, et je lui ai toujours dit non. Donc en fait, je sais pas, est-ce que c'est le contact de ces enfants-là qui m'a donné envie d'avoir des enfants, ou est-ce que c'est l'amour que je portais à cet homme? En fait, c'est très difficile de savoir. Moi, je pense que c'est beaucoup la vie de famille qu'on avait. Je pense que je suis tombée amoureuse d'une vie de famille. Je suis tellement tombée amoureuse de cette vie de famille que j'ai voulu la reproduire dès qu'on s'est séparés. Un schéma, il est jamais complètement reproductible. Donc, j'ai essayé avec d'autres hommes, ça n'a pas marché. Dès que je rencontrais un homme, je me disais, en gros, est-ce qu'on peut avoir la même vie qu'avec lui? Mais c'était ridicule. Et puis, en fait, le temps passait et moi, j'allais avoir 35 ans. Donc, la différence entre, 25 et 27 ans, c'est rien au niveau de la fertilité. Mais la différence entre 35 et 37, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Pour moi, à partir de 35 ans, la fertilité, elle déclinait, mais de façon linéaire, en fait. En fait, pas du tout. Elle décline de façon abyssale, d'un seul coup. Le temps était devenu mon ennemi. Enfin, c'est-à-dire, je le soupçonnais, mais j'en avais pas conscience comme j'en ai conscience maintenant. La seule façon que j'ai trouvée pour pouvoir m'acheter de la sérénité et du temps, c'était d'aller vitrifier mes ovocytes en Espagne dans une clinique de fertilité. C'était en 2014. À l'époque, on parlait pas du tout de ça. Il y avait aucun média qui évoquait ça en France. Et il se trouve que moi, j'allais souvent à Barcelone pour mon boulot. Et à Barcelone, au contraire, je voyais des cliniques de fertilité partout. Donc j'ai voulu me renseigner et voilà, j'ai trouvé cette alternative que je trouvais révolutionnaire à l'époque. Ça a été le début d'une grande aventure, donc je suis allée rencontrer une clinique de visu. Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper moderne, les médecins parlaient toutes les langues, c'était enfin le nec plus ultra de la clinique. Et en même temps, il fallait que je trouve un relais médical en France, et je trouvais pas. Je trouvais aucun médecin qui acceptait de me suivre, parce qu'en France, c'était illégal, et ça l'est toujours. Et donc, je galérais. J'étais un peu démunie. Et puis j'ai fini par demander à cette clinique espagnole de me donner les contacts des gynécologues français qui suivaient leurs patientes françaises. Donc ils m'ont donné 3 contacts, et sur les 3 contacts, il y en a 2 qui n'ont pas accepté de me recevoir, et puis une qui m'a donné un rendez-vous, mais au bout de plusieurs mois. Et puis j'ai fini par vitrifier mes ovocytes. Alors la vitrification, c'est vraiment... tu t'injectes des hormones pendant 2 semaines, puis après, tu t'injectes une autre hormone pour déclencher l'ovulation. Tu fais des échographies et des prises de sang tous les 2 jours pour être sûr que tu fais pas une hyperstimulation. Donc c'est quand même, faut vraiment être très suivi en France. Et puis au bout de 2 semaines à peu près, on te donne un go en Espagne pour que tu sautes dans un avion. Moi à l'époque, j'ai menti à mes collègues, à mon patron, etc. J'ai dit que j'avais une intoxication alimentaire parce que j'ai dû partir en catastrophe en Espagne parce que la ponction doit avoir lieu maximum 36 heures. Après la piqûre pour déclencher l'ovulation. Donc ça veut dire concrètement que c'est clairement une discrimination sociale et financière. Clairement. Il faut dire les choses, c'est la vérité. Donc, une vitrification, ça coûtait 2500 euros, plus bah, les frais d'hôtel, de taxi, d'avion, évidemment. Ça grimpe assez vite. Mais moi, j'étais prête à sacrifier des vacances, des vêtements, des sorties pour m'acheter cette sérénité, pour pouvoir fonder une famille. Je me réveillais avec cette idée le matin et je me couchais avec cette idée le soir. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai continué à rencontrer des gens et puis surtout autour de moi, j'ai commencé à avoir plein de cas de figure. J'ai une copine qui a eu un cancer très grave, qui a fait beaucoup de chimio et ça l'a rendue ménopausée, mais très jeune. Et elle venait à ce moment-là de rencontrer un amoureux et qui n'avait pas d'enfant. Et quand elle est sortie de ce cancer et qu'elle a été rétablie, c'est à nouveau posé la question de l'enfant. Et en fait, donc elle était ménopausée et ça leur a pris beaucoup de temps, mais ils ont décidé de franchir le pas et d'aller en Espagne pour un don d'ovocytes. Et en fait, ça marchait du premier coup. Donc ils ont eu des jumeaux. Et ça, ça m'a beaucoup bouleversée parce que déjà, j'ai trouvé que finalement, ce qui était une tragédie, c'est-à-dire d'avoir un cancer très jeune, en plus un cancer très grave, en fait, ça lui avait donné une force incroyable, et pas seulement à elle, mais à eux en tant que couple. J'étais béate d'admiration. Et puis j'ai une autre amie qui en fait était dans la même situation que moi, si ce n'est qu'elle a 3 ans de plus que moi, et donc le temps passait, et elle n'avait pas d'amoureux. Un jour, elle a décidé d'avoir recours à un donneur anonyme. Et juste à ce moment-là, elle a rencontré quelqu'un. Et lui, il avait déjà 3 enfants. Et elle a eu aussi des jumeaux. C'était une autre façon de faire famille. Ils sont toujours ensemble. Maintenant, leurs jumeaux ont 3 ans. Enfin, ses jumeaux à elle, mais enfin, on peut dire que c'est leurs jumeaux. Hein. Donc en fait, j'ai commencé à avoir des schémas non conventionnels autour de moi. Finalement, faire famille, ça pouvait être de 1000 façons. Quoi. Et au contraire, j'ai commencé à admirer beaucoup les formats un peu différents, que j'ai trouvé plus forts, plus résilients, finalement peut-être plus déterminés à la base. Et ça me fascinait. Et ça me fascine toujours, et je trouve que, en fait, il n'y a personne pour décider de qui a le droit d'avoir des enfants, qui n'a pas le droit. Enfin, je trouve ça totalement absurde. À partir de là, j'ai germé l'idée dans ma tête d'avoir un plan B. Si jamais je n'avais pas d'amoureux suffisamment stable ou suffisamment aimé, désiré, etc., pour avoir un enfant. Et puis, en fait, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais ça a pris plusieurs années, et qui avait à nouveau 3 enfants. Donc, évidemment, j'y suis allée à reculons, parce que je me disais, c'est pas possible, je vais pas reproduire ce que j'ai déjà fait, en plus, il va me claquer dans les doigts, etc. Donc, en fait, non seulement j'y allais à reculons, mais lui aussi, il y allait à reculons, parce qu'il savait très bien qu'il avait en face de lui. Donc, on y allait tous les deux à reculons, et en même temps, on était, je pense, quand même attirés comme des aimants. Et donc, on a vécu une histoire qui n'a pas duré extrêmement longtemps, qui a duré un peu moins d'un an, mais qui était belle, qui était forte, mais la pression était immense. C'est-à-dire que moi, pour le coup, bah, j'allais avoir 40 ans, j'avais vraiment plus de temps, quoi. Et lui, il avait vraiment besoin de temps. Donc, il a fini par me quitter. Je me suis dit, bon, bah, ok, il me quitte. Ben, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est qu'il faut que je sois face à mes choix. Et mon choix, c'est d'avoir un enfant. Donc, il faut que j'y aille. J'étais hyper déterminée à avoir un enfant seul. Et là, ça a été le début du grand 8 émotionnel. Parce que là, c'est devenu médicalement très compliqué, parce que j'avais 40 ans, parce que les cliniques espagnoles sont submergées par la demande, parce qu'il y a un tourisme de la fertilité maintenant, vu qu'en France, c'est pas possible, quand on est célibataire ou quand on est un couple de femmes. Donc en fait, les gens qui veulent des enfants, par la porte ou par la fenêtre, ils essayent d'en avoir. Là, c'était en 2018, donc c'est arrivé très très vite. Et en fait, ça a été un fiasco que je raconte dans mon livre. En fait, qui n'a pas abouti à une grossesse avec mes propres ovocytes, puisque il y a la moitié de mes ovocytes qui ont disparu. On ne sait pas où ils sont partis. La clinique n'a jamais été capable de me dire. Et en fait, ceux qui me restaient, eh ben, ça n'a pas donné lieu à une grossesse. Donc, en fait, j'avais fait 4 stimulations avec mes propres ovocytes, qui ont donné 20 ovocytes en tout. Donc moi, j'étais persuadée que c'était une assurance maternité très fiable. Et au final, pour rien. Avec tout ce que ça veut dire en injection d'hormones, en coûts psychologiques, en coûts financiers, en déplacement, en investissement, on va dire, en tout genre. Donc là, c'est posé un choix qui était difficile, qui était est-ce que je recommence tout à zéro, avec tout ce que ça veut dire, ou est-ce que je fais appel à ce qu'on appelle un double don, donc ovocyte et spermatozoïde. Ce qui veut dire que quand on fait appel à un double don, en fait, on abandonne son patrimoine génétique. Ce qui m'a beaucoup aidée à prendre cette décision, c'est d'avoir été en contact avec les enfants de mes ex, donc chacun 3 enfants, donc au total 6 enfants, que j'aimais énormément, que j'aime toujours énormément. J'étais pas du tout leur maman ou leur deuxième maman, pas du tout. Ils ont tous une maman qui s'occupe extrêmement bien d'eux. Donc j'ai absolument pas servi de roue de secours ou quoi que ce soit. Enfin, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait établir un lien très 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 fort avec un enfant qui avait pas de lien génétique et que ça pouvait être merveilleux. Donc en fait, je me suis sentie très en confiance avec ce choix, mais qui est un vrai choix. Qui est un choix pas facile. J'en ai beaucoup parlé avec mes proches, à commencer par ma famille. Ça a poussé tout le monde un peu dans ses retranchements. Tout le monde a réfléchi au sens qu'on avait envie de donner à notre famille. On est une toute petite famille. Et j'ai trouvé ça chouette parce que quelque part, ça nous a fédérés autour de mon projet de maternité. Tout le monde s'est mis en réflexion sur le sens qu'on voulait donner à notre famille au-delà des gènes. La façon dont ça s'est passé médicalement, en fait, c'est très simple. Hein, c'est-à-dire qu'on fait des injections d'hormones pour préparer l'endomètre. Et une fois que l'endomètre est prêt, pareil, on fonce à Barcelone et y a un transfert d'embryon qui dure, allez, montre en main, 5 minutes. C'est très rapide, c'est totalement indolore. Et c'est la clinique espagnole qui fait le choix des 2 donneurs, qui essaye de correspondre à peu près au physique de la femme receveuse. Puis après, on a 2 semaines d'attente qui sont extrêmement longues pour savoir si on est enceinte ou pas. Donc moi, la première fois avec un double don, je suis tombée enceinte, mais j'ai fait une fausse couche précoce. Donc c'était assez difficile à accepter, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce que ce soit positif ou négatif, mais pas positif et négatif, quoi. J'étais abasourdie. Donc là, j'ai vraiment repriorisé ma vie. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, bah en fait, il faut que ça devienne mon unique priorité. Il faut que je mette tout en œuvre pour ça. Donc, je me suis beaucoup faite aider de médecine douce, acupuncture, ostéopathie, un psy. Enfin, j'ai tout mis en œuvre. J'ai tout fait. J'ai arrêté toute vie sentimentale pour ne pas être polluée. Voilà, j'ai tout lâché. Je me suis dit, en fait, il faut que j'y arrive. Et je vais y arriver. Je vais y arriver. Et la deuxième fois, ça n'a pas marché. C'était négatif. Et la troisième fois, ça a marché. En fait, je me suis dit, je suis enceinte jusqu'à preuve du contraire. Et pas, j'espère que je suis enceinte. Donc, c'est pas du tout le même état d'esprit. Quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était à la fois super, en même temps, j'avais évidemment très peur de faire une fausse couche. Donc, je suis restée pendant plusieurs jours allongée sur mon canapé sans bouger. J'avais peur de prendre une douche. Enfin, bref, n'importe quoi. Quand j'allais aux toilettes, j'avais peur de... c'était ridicule. Quand je prenais le métro, j'avais peur des secousses. Enfin, bon. Et puis après, j'ai commencé à être hyper, hyper malade, mais au point de plus du tout pouvoir sortir de chez moi. Et c'est une triste banalité, hein, ce que je raconte, mais j'ai vraiment pris conscience de la résilience des femmes. Les femmes sont hyper fortes, mais hyper fortes, et pas que pour ça. Hein, mais là, c'est... Parce qu'il y a un moment donné, j'ai cru que j'allais mourir tellement j'étais malade. Et je me suis dit, mais pourquoi on m'a pas prévenue, quoi ? En fait, je pense que les femmes oublient ce qu'elles ont vécu, que ce soit le fait de vomir 20 fois par jour ou le fait d'accoucher. Les femmes, elles oublient. Et je pense que nous, les femmes, on a cette capacité à surmonter des trucs, mais incroyables, quoi. Et vraiment, là, ça m'a sauté aux yeux. Alors moi, en ce qui concerne mon accouchement, j'ai eu une césarienne. Pour le coup, ça s'est extrêmement bien passé. Donc, je peux pas dire que j'ai eu mal ou quoi que ce soit. Mais je veux pas tout raconter parce que je raconte la fin... Dans mon livre, il y a eu beaucoup de rebondissements totalement dingues. Et je pense que la vie, de toute façon, elle est dingue. Elle est extrêmement imaginative, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer nous-mêmes à la base. C'est ce qui fait la magie de tout ça. Donc, je dirais, quand on a une idée qui germe, il ne faut pas la lâcher. Alors moi, je m'appelle Audrey Page, j'ai 42 ans. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Aller-retour pour un bébé », qui sort le 17 septembre aux éditions Albin Michel. Dans la vie, je suis pas du tout autrice. Dans la vie, je fais du marketing pour un grand groupe de luxe. Et c'est mon premier livre. J'avoue que ça m'a donné énormément de plaisir quand je l'ai écrit. Ce que j'ai envie de dire aux femmes qui savent pas si elles veulent avoir un enfant ou pas, ou alors qui savent qu'elles veulent avoir un enfant, mais pas tout de suite, et ben moi, je leur conseille de vitrifier leurs ovocytes, mais très jeunes, le plus jeune possible, en fait. Parce qu'elles auront à le faire qu'une seule fois, parce qu'elles auront plein d'ovocytes. Alors que dès qu'elles avancent en âge, finalement, il va falloir qu'elles le fassent plein de fois, avec tout ce que ça veut dire comme désagrément physique. Et puis surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de schéma familial possible. En fait, il y en a plein. On n'est pas obligé de tout faire dans l'ordre, entre guillemets, en tout cas l'ordre qu'on nous a légué, c'est-à-dire se mettre en couple, se marier ou pas se marier, mais on va dire officialiser un couple sérieux, avoir des enfants. Hein. On n'est pas obligé. Nous, en fait, on est une génération où on peut faire les choses dans un autre ordre. On peut d'abord faire des enfants et ensuite se mettre en couple. On peut changer d'avis, on peut... Enfin, voilà. Et ça, c'est génial. On est la première génération à avoir ce choix. Et ça, c'est un choix qui nous appartient. Ce que j'aimerais vraiment rajouter, c'est qu'on n'est pas seul. On n'est jamais seul, en fait. Ça, c'est un mythe. Je l'ai fait seule dans le sens où je suis l'unique parent. Mais en fait, on était 10 sur le coup. C'est-à-dire qu'il y avait une flopée de médecins, de thérapeutes, etc. Moi, je ne me suis jamais sentie seule, en fait. Ça, c'est vraiment... pour moi, c'est un héritage du patriarcat. Hein. Alors, elle fait un bébé seul, du coup, elle va être seule toute sa vie. C'est un peu la deuxième idée. N'importe quoi.
Merci à Audrey Page pour son témoignage à l'occasion de la sortie de son livre « Aller-retour pour un bébé ». Et toi, t'en as ? T'en veux ? T'en voulais des mômes ?